la prétention à la scientificité. Si les faits ne s'accordent pas avec la théorie, alors tant pis pour les faits, disait Friedrich Hegel. Avec la confiance grandissante en une totale compréhension de la réalité, fondée sur des observations objectives et des expériences renouvelables, la science a progressivement comblé le vide écologique laissé par la disparition des grands idéaux religieux, moraux et idéologiques. Bien sûr, une doctrine du salut par le savoir scientifique existait depuis longtemps. Bacon et Descartes, par exemple, en furent des défenseurs. Mais mettre dans la connaissance scientifique, en dehors de toute révélation divine, des espoirs politiques et utopiques est une attitude relativement récente. L'idée séduit par ses apparentes simplicités et clartés. Quiconque parvient à comprendre l'ordre intrinsèque de la nature, en elle-même indépendante des opinions, convictions, préjugés, valeurs et espoirs humains, peut se considérer en possession de la vérité éternelle. Le scientifique prend la place de celui qui cherche Dieu, et la vérité objective, celle de la superstition. Je cite Laplace. « Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. » Dès 1840, Laplace définissait ainsi l'idée d'une eschatologie sécularisée. Remarquons cependant que, en toute justice, il prend en compte son caractère utopique en utilisant le conditionnel. Depuis Gambattisa Vico, de nombreux esprits éclairés n'ont cessé d'affirmer haut et fort que toute théorie scientifique ne donne jamais, au mieux qu'une image ou une interprétation du monde, et ne peut en aucun cas prétendre représenter la réalité elle-même. Le présent ouvrage a précisément été conçu comme contribution à cette problématique. Notre propos se limite ici à examiner les conséquences pratiques résultant de l'affirmation que l'on peut, ou que l'on a déjà pu, expliquer le monde scientifiquement. Ou en d'autres termes, à examiner ce qui arrive quand l'idéologie essaie de fonder sur le savoir scientifique sa prétention à devenir la vérité et sa volonté de l'imposer universellement. Quelle est la validité des conclusions scientifiques? Pour ce qui concerne les multiples aspects de la vie quotidienne, on peut affirmer qu'elles sont généralement valables. Faites dans des conditions identiques, l'observation de la chute d'un corps dans le vide, au niveau de la mer, donne chaque fois les mêmes résultats. À ce stade, on ne peut pas prendre en compte le fait que l'observation n'explique pas les causes du phénomène, dans ce cas la nature de la gravitation, ni n'établit plus qu'une probabilité statistique. On doit en effet se limiter à affirmer que, à la millième fois, le corps lâché dans le vide tombera comme il l'a fait lors des 999 essais précédents et ne commencera pas, au contraire, à s'éloigner de la Terre. Nous rappelons ici une distinction que nous avons faite ailleurs, entre deux aspects fondamentaux différents de ce que nous appelons la réalité. Il y a, d'une part, les propriétés des objets, ce que nous avons appelé la réalité de premier ordre, celle de tous les faits contenus dans un cadre particulier, celui de l'observation ou de l'expérience, l'une comme l'autre n'étant bien sûr que le résultat de constructions théoriques. Il s'agit, autrement dit, de l'univers des faits que l'on établit objectivement, dans la mesure où la répétition de la même expérience fournit les mêmes résultats, indépendamment de qui la réalise et de quand et où on la réalise. Comment, à partir de là, ne pas succomber à la tentation d'affirmer, avec une apparente logique, qu'on a trouvé la clé de l'interprétation du monde, et avec elle, les règles absolues que l'homme doit observer dans sa relation à son environnement, à son prochain, mais aussi dans l'attitude qu'il adopte à l'écart de sa propre existence. Car la vérité devient alors accessible à tout homme de bonne volonté, et seuls les fous, les obstinés et les sournois veulent résister à la raison. Et pour ces gens-là, on a prévu des asiles de fous et des prisons. Cette terrible simplification oublie cependant que les faits de la réalité de premier ordre ne donnent aucun point de référence ou indication concernant le sens de l'existence humaine. La loi de la gravitation ne nous apprend rien que nous sachions déjà. Tomber de très haut entraîne la mort. Et Shakespeare ne connaissait aucun philosophe capable de ne tenir compte de son mal de dents. Dans son Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein écrit « Nous sentons que, même si toutes les possibles questions scientifiques ont trouvé leur réponse, nos problèmes de vie n'ont pas même été effleurés. Assurément, il ne subsiste plus alors de questions, et même cela constitue la réponse. Mais la réalité dont il est question ici, et que l'idéologue se propose d'expliquer, n'est pas celle des faits scientifiques du premier ordre de réalité. Il s'agit bien plutôt de l'aspect de la réalité qui donne aux faits sens, ordre et valeur. Un petit enfant ayant une vue normale perçoit une lumière rouge sans savoir encore qu'elle lui interdit de traverser la rue ou qu'elle indique un bordel. La signification de cette lumière n'a absolument rien à voir avec sa longueur d'onde ou d'autres propriétés du même type. Elle est une convention humaine, un sens qui a été attribué à cette lumière. Et comme tout autre signe, chaque mot surtout, elle n'a pas d'autre relation avec son référent. En affirmant, le nombre 5 en lui-même n'a rien de particulièrement ressemblant avec la quantité 5. et le mot table n'a rien de particulièrement ressemblant avec une table. Bateson et Jackson ont fait écho à la remarque de Shakespeare « Le bien et le mal n'existent pas, si ce n'est dans nos pensées ». Nous avons appelé « réalité de second ordre », le cadre dans lequel les faits reçoivent une signification ou une valeur. Alors que cela a un sens dans la réalité de premier ordre, d'examiner par exemple quelle opinion s'accorde ou non avec les faits concrets, il devient insensé dans la réalité de second ordre de discuter une vérité établie scientifiquement ou de prétendre l'avoir trouvée. Prenons un exemple parmi tant d'autres possibles. Il n'existe pas de solution scientifique, objective, au conflit entre les pays arabes et Israël. Pas plus que ce type de solution ne peut s'appliquer à un conflit entre deux individus. Les relations interindividuelles dépassent le cadre de la réalité de premier ordre, puisqu'il n'est pas possible de déterminer scientifiquement leur nature. Totalement construites par des partenaires, elles échappent à toute vérification objective. D'où l'échec d'une foi naïve en la raison, fondée sur la connaissance scientifique. D'où aussi l'échec des espoirs mis en l'homme bon par nature, suivant Rousseau, que sa soumission volontaire, spontanée et raisonnable aux évidentes valeurs fondamentales établies scientifiquement rend toujours meilleure, et donc de ce fait, les désirs et besoins individuels finiront par coïncider parfaitement avec ceux de la société. C'est précisément là qu'on trouve le noyau des utopies scientifiques qui prétendent pouvoir construire un monde sain où règne l'altruisme et la paix, dans la prétention fondée sur la confusion des deux ordres de réalité, des idéologies à la scientificité. Quand elle se produit, cette confusion donne à la construction d'une réalité qui n'a en rien besoin d'être identique au monde, aussi obligatoire d'une quelconque idéologie non scientifique. La psychiatrie classique pose naïvement l'existence d'une réalité dont les individus normaux, les psychiatres en particulier, ont plus clairement conscience que les malades mentaux. Et comme Anderson et Radzinski l'ont très justement remarqué, on trouve dans l'application sociologique de la doctrine scientifique du salut du monde, la foi en la possibilité de combler le fossé qui sépare ce qui est de ce qui devrait être et l'espoir en l'avènement d'un monde où les faits irréfutables et les désirs humains ne seront plus qu'une seule et même réalité. Quand une théorie scientifique est finalement déclarée valable par décision politique, et justifie dès lors la contrainte générale exercée par la raison d'État, tombe le rideau de fer de l'obscurantisme. Mentionnons deux exemples qui illustrent notre propos de façon particulièrement éclatante. Le mythe du XXe siècle d'Alfred Rothenberg, qui développe une théorie raciale au nom de laquelle des millions d'êtres humains furent déclarés inutiles et tués, et la théorie de la transmission génétique des caractères acquis de Trofim Denisovitch Lysenko, qui mena à l'arrestation et à la mort de scientifiques soviétiques qui la réfutaient et qui, pendant des dizaines d'années, paralysa la recherche génétique en URSS. Et pourtant, déjà du vivant de ces deux hommes, leur théorie était de ridicule non-sens. Dans l'univers sublunaire des idéologies scientifiques, la recherche n'a plus lieu de continuer. Les affirmations sont définitivement établies et ne doivent plus être remises en question. Le doute n'a plus le droit de citer. Ce qui, dans un monde où le savoir scientifique peut se développer librement, va de soi, devient d'évidente trahison et subversion quand ceux qui ont le pouvoir s'imaginent détenir la vérité absolue. Bien sûr, chaque fois qu'il contredit l'idéologie, le cours des événements est lui-même subversif. Les idéologues font dans ce cas un saut qui n'est un saut périlleux que pour ceux qui sont incapables de s'adapter suffisamment vite. La vérité d'hier devient alors l'hérésie d'aujourd'hui, et on réhabilite soudain comme génie ceux que l'on avait tués pour les erreurs qu'ils avaient commises.